Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce temps de préparation au carême, il est bon de faire le point sur ce que la parole de Dieu a produit en nous durant l'année écoulée. La parabole du semeur que nous avons entendue dans l'Évangile va nous y aider. Interrogeons-nous d'abord sur le semeur, la semence et son efficacité. Celui qui sème sortit pour semer sa semence. Cette semence, explique notre Seigneur, est la parole de Dieu. Il ne dit pas qui est le semeur, mais il est facile de le deviner, car cette qualité ne convient à nul autre mieux qu'à lui, puisqu'il est le Verbe, la parole éternelle du Père, qui s'est incarné, s'est fait homme pour répandre dans nos âmes la bonne semence des mystères du royaume des cieux. Le texte de l'Évangile dit « sa semence » pour bien marquer que sa parole n'est pas une parole d'emprunt, puisqu'il est par nature le Verbe du Dieu vivant. Et donc, il tire ses divins enseignements de sa propre nature. Cette parole divine n'est pas comme la parole humaine qui se dissipe rapidement. C'est une semence de vie surnaturelle, de sainteté, de vie éternelle. Notre Seigneur nous l'a dit lui-même, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Et cette parole de Dieu, dit saint Paul, « elle est vivante, efficace, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. » Elle n'est donc jamais stérile en elle-même, mais capable de produire d'abondants fruits de sainteté. Remarquez aussi que cette semence n'est pas confiée à un agriculteur inexpérimenté, qui par son incapacité pourrait ruiner les meilleures semailles. Cet agriculteur, c'est notre Seigneur lui-même, donc il sait où il met la semence. Nous avons un exemple de ce que cette semence peut produire dans l'apôtre saint Paul. D'un persécuteur, eh bien, elle a fait l'apôtre des nations. Non seulement la grâce de Dieu l'a converti, c'est-à-dire a vaincu son obstination dans le mal, mais ensuite, en lui, elle a vaincu tous les obstacles extérieurs qu'il a rencontrés pour propager l'Évangile à travers l'Empire romain. Ces obstacles sont nombreux, il en dresse toute une liste impressionnante dans l'épître de ce jour. Cette semence aura été efficace en lui, puisqu'il pourra dire « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et la grâce n'a pas été vaine en moi. » Ces mystères du royaume des cieux, qu'il a si bien perçus, et dont il s'est fait le héros par sa prédication et son exemple, ne sont pas réservés à une élite, aux apôtres, aux saints. Nous aussi, par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, c'est-à-dire participants à la vie même de Dieu et de sa gloire. Dieu nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, c'est-à-dire que nous sommes prédestinés à réaliser en nous l'image glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ en assimilant petit à petit son esprit, son caractère, de sorte que au ciel, eh bien, notre Seigneur soit le premier-né d'une multitude de frères. Pour cela, la grâce de Dieu ne nous manquera pas. C'est une semence efficace qui en chacun de nous doit produire son effet, selon la mesure déterminée par Dieu. Alors interrogeons-nous, pourquoi la semence ne donne-t-elle pas toujours les fruits désirés? Pourquoi, malgré les sollicitations de la part de Dieu, les prédications entendues, les bonnes lectures, les sacrements, les retraites, pourquoi cette semence tombée dans la terre de nos âmes demeure-t-elle trop souvent stérile? Bien, la réponse est qu'il y a des obstacles. Des obstacles qui s'opposent au développement de cette semence. Alors, quelle est la nature de ces obstacles? Il y a d'abord des obstacles extérieurs. Notre première réaction devant des difficultés, eh bien, c'est de faire comme Adam, de rejeter la faute sur les autres. À la question « Pourquoi as-tu mangé du fruit dont je t'avais défendu de manger ?» Eh bien, Adam répond « Mais c'est la femme que vous m'avez donnée, qui m'en a donné, et j'en ai mangé. C'est pas ma faute. » Et il interroge la femme. Eh bien, la femme répond « C'est le serpent. Il m'a séduit et j'ai été trompé. » Donc, c'est pas la faute de la femme non plus. Eh bien, nous, si on nous posait cette question, pourquoi la sainteté fleurit-elle si peu en nous? Nous risquons de faire, comme Adam et Ève, de répondre, c'est à cause de la dureté des temps, de la société matérialiste qui nous entoure, des sociétés secrètes qui dirigent le gouvernement, pourrissent les mœurs, et par des lois mauvaises, etc., etc., on pourrait allonger la liste. Là encore, saint Paul nous donne la réponse. Lui, il a été affronté à des obstacles extérieurs sans nombre. De son temps, le paganisme régnait partout. Il n'y avait pas de société chrétienne. Que pouvait une poignée d'apôtres face à un monde qui n'hésitera pas à employer la violence pendant 3 siècles pour exterminer les chrétiens? Quant à son apostolat, eh bien, saint Paul devra affronter une multitude de dangers. Les prisons, les coups, les naufrages, les brigands, les païens, les faux frères, la faim, la soif, les fatigues, etc. À Corinthe, il trouvera une société aux mœurs corrompues. À Athènes, l'indifférence des esprits dits cultivés et moqueurs, toujours à la recherche de la dernière nouveauté philosophique. Cependant, malgré toutes ces oppositions, dans un tel monde, la semence a été efficace, car la chrétienté est née dans le monde romain païen. Et l'apôtre a pu dire « Là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Eh bien, il en est de même aujourd'hui. Les péchés surabondent. Cela déborde de partout. Eh bien, la grâce, elle va surabonder. Et les obstacles ne sont pas justement un empêchement. Ils vont être des stimulants qui ne permettent pas à la monotonie ou à la médiocrité de s'installer. Si nous aimons Dieu, nous n'avons rien à craindre, dit saint Paul, car toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on pourrait se dire, si les difficultés ne viennent pas d'obstacles extérieurs, elles viennent certainement d'obstacles intérieurs. Par exemple, les tentations dirigées au-dedans de nous par une main de maître, par Satan, qui excite en nous les péchés capitaux, les restes du péché originel, les 4 blessures qui nous sont restées après le baptême. Ou encore la faiblesse de notre constitution, ou les carences éducatives qu'on a pu avoir. Là encore, eh bien, saint Paul, tout apôtre qu'il était, n'a pas été exempt de la tentation, puisque l'épître d'aujourd'hui nous apprend que Dieu a permis qu'il ressente un aiguillon dans sa chair, un ange de Satan qui le soufflette. Il ne peut pas s'endormir. Il a toujours quelqu'un, un ange là, qui va l'empêcher de s'enorgueillir et de se reposer. Eh bien, comme lui, dans une telle situation, il faut nous tourner vers Dieu pour lui demander d'être délivré de la tentation. Mais si malgré notre prière, ce genre de tentation persiste, si ce n'est pas de notre faute ou par imprudence, eh bien, c'est que Dieu veut nous exercer au combat spirituel. Il veut nous garder dans l'humilité, en ayant toujours présent notre faiblesse et le besoin du secours divin. Comme à saint Paul, dans les tentations, Dieu nous dit « Ma grâce te suffit ». On serait tellement bien plus tranquille si on n'avait pas de tentation. Mais ce n'est pas la volonté du bon Dieu. Cet aiguillon dans la chair n'a pas empêché saint Paul de garder la chasteté et de devenir un grand saint. Eh bien, de même pour nous, la tentation n'est pas un obstacle au développement de la semence divine dans nos âmes. Ce ne sont donc ni les obstacles extérieurs, ni les obstacles intérieurs qui peuvent éloigner les vrais chrétiens du salut. Rien, absolument rien, dit saint Paul, ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Par conséquent, la seule cause qui peut nous en séparer, c'est nous-mêmes. C'est notre mauvaise volonté qui s'accommode de nos manquements et qui, par la répétition des manquements, eh bien, va devenir des imperfections habituelles. Pour reprendre les images de la parabole du semeur, notre âme, puisque nous sommes pratiquants, nous faisons quand même des efforts, eh bien, on peut dire que notre âme comporte des petits morceaux de bonne terre. Quand, fidèles à la grâce, nous avons produit quelques bonnes œuvres et grandi en vertu. Mais il y a aussi de la terre battue. Quand notre âme, par sa légèreté, sa dissipation, son affection pour les choses terrestres et mondaines, a repoussé tout de suite la grâce, ne lui laissant pas même le temps de lever. Et il y a encore des endroits au sol rocailleux dans nos âmes. Quand, bien disposé, après une confession, une retraite, une bonne lecture, nous prenons de bonnes résolutions avec joie et on cède à la première difficulté. Enfin, il y a aussi des endroits couverts d'épines. Quand notre âme, encore préoccupée des choses terrestres, produit quelques bonnes œuvres, mais qui sont bien vite étouffées, on ne persévère pas. Alors, que faire pour que la terre de notre âme puisse produire du fruit 100 pour 1? Il faut deux choses. Il faut d'abord bien connaître le terrain cultivé. C'est le BEABA de n'importe quel agriculteur. C'est-à-dire bien se connaître. Très souvent, nous sommes aveugles sur nos défauts, nos imperfections. Nous sommes tellement habitués au champ de notre âme que nous ne voyons plus les quelques buissons qui subsistent, les pierres qui émergent çà et là, la terre battue par endroits. On le trouve convenable, notre petit terrain. On le croit même fertile. Et même on pourrait penser que les pierres, les ronces, les buissons d'épines donnent quelque agrément à ce terrain, une certaine originalité. Notre amour propre nous trompe, nous voit ce que nous sommes en réalité, en vérité devant Dieu. Heureusement, nous ne vivons pas seuls. Et nous avons notre prochain qui est toujours là pour nous montrer nos défauts. Alors, pour dresser un bilan, écoutons ce que disent nos conjoints, nos collègues de travail, nos parents, nos frères et sœurs, nos supérieurs, notre confesseur, notre directeur spirituel. Eux, ils ont un regard extérieur, ils voient les défauts. Peut-être exagèrent-ils, mais n'empêche, il y a bien un défaut. Alors, ayons l'humilité de recevoir leur avis. Et Dieu nous accordera de dissiper le brouillard de notre amour propre et de nous voir en pleine lumière. Ensuite, une fois qu'on voit clair, on va pouvoir faire quelque chose, travailler. Eh bien, il s'agit maintenant de se renoncer, de pratiquer la pénitence, de porter nos croix courageusement. Ce terrain de notre âme, il faut le labourer, il faut arracher les buissons, enlever les rocailles. Donc, il faut passer la charrue de la pénitence, de la mortification. Et bien sûr, c'est douloureux. Et notre âme ne peut pas sentir ce travail qui la triture, qui la déchire, qui la retourne. Et pourtant, il n'y a pas d'autre moyen de devenir une bonne terre. Il faut donc de la patience. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit des bonnes terres, que ceux qui sont des bonnes terres, eh bien, ils portent du fruit dans la, par la patience. On retrouve ici le mystère de la croix qui doit s'accomplir en nous. Pour devenir semblable à notre Seigneur, pour être glorifié avec lui un jour, et c'est pour cela, nous sommes prédestinés à cela, eh bien, il est nécessaire que nous souffrions avec lui. Ce mystère de la croix doit s'accomplir en nous. Notre Seigneur l'a expliqué, si le grain de blé ne meurt pas en terre, il ne porte pas de fruit. Si ce travail de renoncement, de sacrifice, de pénitence nous effraie, et il effraiera toujours notre nature, eh bien, Saint Paul va nous encourager, parce que lui, il a affronté beaucoup plus d'obstacles que nous, et il sait de quoi il parle, il est mort martyr, et puis il a une vie remplie de souffrances depuis sa conversion. Et cependant, il nous dit, « J'estime que les souffrances du temps présent n'ont pas de proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. » En fin de compte, si nous avons du mal à faire ce travail de mortification, de purification, eh bien, c'est parce que nous n'avons pas vraiment foi en la puissance de cette parole de Dieu, la puissance de la grâce. Nous ne croyons pas vraiment qu'elle est esprit et vie et qu'elle peut nous transformer. Alors demandons au bon Dieu, par l'intercession de la Sainte Vierge, eh bien, d'obtenir cette protection de l'apôtre et puis ce zèle dont il a fait preuve tout au long de sa vie, et qui lui a permis, eh bien, de cueillir le prix, hein, la course du stade. Il a obtenu le prix par le martyr. Eh bien, nous, si nous sommes fidèles à la grâce que le bon Dieu nous a préparée, comme lui, nous pourrons saisir le prix et entrer dans le royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.